Gloire à Dieu, nous nous retrouvons une fois de plus autour de notre Dieu, de notre Père, pour écouter sa voix, entendre sa voix pour notre vie tout entière, mais aussi pour le moment. Dieu nous parle pour aujourd'hui, comme c'est écrit, il est la lampe à nos pieds, donc avec la lampe aux pieds, on voit à courte distance, mais il est aussi la lumière sur notre sentier. Donc là, il parle pour toute notre vie. Et quelqu'un, lorsqu'on prêche, peut entendre la voix de Dieu pour sa vie, saisir l'appel de Dieu pour sa vie. Mais quand on nous prêchons aussi, nous saisissons la volonté de Dieu pour le moment. Voilà, Dieu nous parle pour aujourd'hui et pour toute la vie. Et nous sommes sur le thème du réveil. Comme on avait expliqué, le réveil, c'est un temps où Dieu déploie une grande puissance pour réveiller son peuple, ramener son peuple à lui, ramener son peuple à la vérité. Et quand il déploie une telle puissance, il y a en même temps la puissance d'annoncer sa parole, d'évangéliser, de louer son nom. C'est-à-dire que le réveil, c'est comme un avant-goût du ciel. Donc, d'un coup, nous voyons l'Esprit Saint agir, toucher les cœurs, amener les gens à prendre des décisions de se convertir, amener les gens à s'humilier, à se repentir. Et cela, sans effort apparent d'un homme. C'est l'Esprit qui touche les cœurs, c'est l'Esprit qui agit. Et nous avions expliqué que nous devons avoir soif du réveil parce que Dieu nous a promis de fleuves d'eau vive. Donc nous devons avoir soif du réveil parce que Dieu nous a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Nous sommes le peuple de la gloire. Donc il nous faut, même si nous ne pouvons pas vivre tout le temps comme ça dans une gloire manifeste visiblement, parce que ça peut aussi jouer contre nous en nous donnant l'orgueil, mais il nous faut, à chaque génération, avoir ce temps-là de gloire où nous sommes dépassés par Dieu et nous le suivons. Parce que sinon, tout va être intellectuel, tout va être administré par l'homme et il va y avoir un peu de Dieu. Or, nous, nous voulons au maximum de Dieu et le peu pour l'homme. C'est ça le réveil. Le maximum revient à nouveau à Dieu. L'homme commence à vivre à nouveau pour Dieu et ça communique, ça se communique dans une région, dans un pays, dans une localité et nous voyons des conversions abondantes. Nous avions expliqué que le réveil ne pouvait être produit que par Dieu lui-même. C'est ce que le frère Pierre dit dans Actes chapitre 3. Il dit, pourquoi vous me regardez comme si nous, on a une puissance quelconque pour faire marcher cet infirme? C'est la puissance dans le nom de Jésus qui l'a fait marcher à nouveau. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre piété, notre profonde relation avec Dieu qui crée ça. C'est Dieu lui-même qui fait ça dans le nom de Jésus. Mais on avait dit, même si c'est Dieu lui-même qui produit le réveil, il ne va pas le produire n'importe comment. On ne va pas donner les choses saintes au pourceau. Dieu veut déposer ces choses-là à des gens qui comprennent sa vision, à des gens qui comprennent ce que lui, il attend de l'homme. Même si ça vient de lui, ça ne va pas être donné une telle puissance à n'importe qui. On a pris l'exemple simple, bien-aimé, on ne va pas donner la clé de la bombe atomique à n'importe qui, à un étudiant, à la fac, qui dans une crise de colère peut l'envoyer, par exemple, dans un pays qu'on estime dictatorial. Non, on donne ça à des gens qui ont compris les choses, qui ont compris la vision de Dieu. C'est ça le réveil. Ça vient de Dieu, mais il faut quand même que l'on comprenne qu'est-ce que Dieu veut. Et quand on comprend ça, il peut déverser sa puissance, sachant qu'on l'utilisera à bon escient. C'est pourquoi parfois ça prend du temps quand il y a des gens qui prient pour le réveil. Ça prend un certain temps puisque Dieu veut d'abord que les gens comprennent. Vous voulez cette puissance, pourquoi ? Vous voulez en faire quoi ? Il veut qu'on sache qu'est-ce qu'on va en faire. Vous savez, dans Actes 1:8, il dit « Attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le but de cette puissance, c'est être des témoins de Jésus. Ce n'est pas de se faire valoir. Ce n'est pas de réussir, entre guillemets, son ministère. Non, c'est être un instrument total entre les mains de Jésus. C'est ça le but du réveil. Mais il faut la puissance du Saint-Esprit parce que l'homme de lui-même ne peut pas. Nous affrontons des puissances, des ténèbres très fortes. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour nous donner cette victoire-là. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour résister à l'opposition des humains, pour continuer à prêcher la vérité. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour aimer la sainteté. C'est pourquoi nous voulons le réveil. Le réveil va nous remplir du Saint-Esprit, nous baptiser du Saint-Esprit pour faire le travail du Seigneur pleinement, sans que la chair ne prenne le dessus sur la volonté de Dieu. Nous avons besoin du réveil. Parce que Dieu nous a donné un exemple. C'est dans les Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, tout le chapitre 2, pour que nous voyons c'est quoi un réveil. Il y en a eu d'autres dans le monde entier. Mais moi, je préfère citer le réveil qui est dans la parole. Et si dans les commentaires, je peux parler d'un autre réveil qui n'est pas dans la parole, ça, si ça vient, on en parlera. Mais lisons dans la parole. Il y a plusieurs réveils dans la parole. Il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, le plus grand réveil.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Amen. Donc nous voyons tout ce que peut contenir un réveil. D'abord, il y a la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le réveil, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste clairement, glorieusement. Le Saint-Esprit est là, mais il y a des temps où il se manifeste comme des fleuves d'eau vive qui débordent quelque part. Vous savez, c'est pas la même chose quand un fleuve coule tranquillement et puis quand il y a l'effervescence d'un fleuve en crue. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand c'est en cru, il y a un bruit, ça draine. Donc on a vu ça dans les inondations dans le sud dans les Alpes-Maritimes. Ça draine tout ce que ça trouve sur le chemin. Ça arrache les arbres. Et les âmes doivent être arrachées du monde des ténèbres. Dieu envoie la puissance de son esprit. Nous voyons toutes les manifestations qu'il y a quand il y a la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons des gens, les langues de feu qui sont tombées. Nous voyons Pierre automatiquement voit la puissance pour prêcher. Il commence à prêcher la parole. Nous voyons les gens autour agités. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a l'agitation tout autour. C'est pas des publicités avec des banderoles. C'est la puissance du Saint-Esprit. J'aime toujours l'histoire de Farel à Genève au 16e siècle. Alors qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de télévision, il n'y a même pas de journaux. Mais Farel est saisi par la puissance du Saint-Esprit. Il prêche dans une place de Genève et il y a 1000 personnes qui viennent. Donc comment les 1000 personnes sont venues? Aujourd'hui, pour faire venir 1000 personnes, il faut faire toutes sortes de pubs. Nous avons soif du réveil. Nous voulons voir à nouveau le Saint-Esprit lui-même attiré, comme on voit dans l'Acte des Apôtres. Là. Les gens sont venus d'eux-mêmes, de tous les peuples. Ils sont venus écouter. Et voilà encore la puissance du Saint-Esprit, c'est que malgré le fait qu'ils étaient de plusieurs langues, ils pouvaient entendre les louanges dans leur langue à eux. Pendant que les apôtres parlent, eux, ils entendent dans leur langue. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ils parlent directement dans le cœur de quelqu'un dans sa langue. Nous voulons vivre tout cela, bien-aimés. Est-ce que nos efforts ne sont pas bons? Non, ils sont bons dans la mesure où on fait ce qu'on peut. Mais Dieu nous a promis. Et Pierre dit, tout ce que vous voyez là, c'est une promesse de Dieu dans Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse qui s'accomplit. C'est ça le réveil. Le réveil a fermé les bars dans le pays de Galles dans les années 1900. Les bars ont été fermés puisqu'il n'y avait plus personne pour aller dans un bar. Tellement toute la ville était touchée par le Saint-Esprit. C'est ça le réveil. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas vivre une vie entre parenthèses. Nous devons avoir soif du réveil. Comme le dernier chant que nous avons chanté. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif du réveil. Ça doit être l'objectif de toute une vie de chaque chrétien. Que en son temps, dans sa génération, il y ait aussi ça. Puisque Dieu agit dans chaque génération. Chaque génération doit se battre, doit attendre l'accomplissement de ceci. Doit prier pour cela. Et là, nous sommes en train de dire, mais si nous voulons ça, voilà les conditions. Non pas que ce sont ces conditions-là qui vont produire le réveil, mais Dieu ne donnera ce réveil-là que quand on comprend ces conditions-là. Et c'est pourquoi parfois ça prend du temps, parce que il faut que ces conditions-là soient réunies. Il faut, si nous voulons vivre tout ce qu'on voit là, des gens d'eux-mêmes venir dire, qu'est-ce que nous devons faire alors? Après la prédication de Pierre, Pierre n'a pas dit aux gens, convertissez-vous. Il dit, mais Jésus est ressuscité. Le Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Mais bien aimé, pour prêcher la résurrection, est-ce qu'on sait ce qu'on prêche quand on parle de la résurrection? Quelqu'un mort depuis 3 jours qui ressuscite. Je ne parle pas de la résurrection que nous, on peut faire en priant pour quelqu'un, parce que cette personne-là va mourir un jour. Mais nous parlons de la résurrection de Jésus, qui ne produit plus la mort, qui t'amène à être un être différent, avec un corps glorieux. C'est cette résurrection que nous prêchons à tout le monde, pour dire à tout le monde que tu n'as pas besoin de faire le péché parce que le péché va t'amener dans la mort éternelle, dans le feu éternel, alors que Jésus te donne la résurrection, un corps nouveau. Mais comment on va prêcher une telle prédication sans la puissance du Saint-Esprit? Tu parles de résurrection, mais on sent en toi la même puissance qu'un médecin, la même puissance qu'un professeur d'université. Donc tu convaincs les gens parce que tu expliques bien les choses. Non, bien-aimé, nous ne voulons pas convaincre les gens parce que nous expliquons bien les choses. Nous voulons que le Saint-Esprit convainc les gens. Donc de sorte que même si nous, on n'a pas très bien expliqué, la personne dit, je fais quoi? Moi, je veux de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est en action. On ne peut pas parler de la résurrection avec une puissance de professeur. Non. On doit parler de la résurrection avec la puissance de la résurrection. Nous devons avoir soif de cela. Vivre une vie toute simple comme ça, comme tous les humains, ce n'est pas biblique. Nous devons agiter la porte du Seigneur, frapper. Celui qui frappe, on l'ouvre. On doit frapper, demander l'audience. Dis, mais Seigneur, et notre génération, tu l'as oublié ou quoi? Quand il y a réveil, bien-aimé, nous voyons, là nous parlons de l'extérieur, mais la vie en communauté, mais elle est extraordinaire. On nous en parle dans, au verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous savez, quand il n'y a pas le réveil, les gens veulent qu'on leur rappelle que la réunion c'est mardi à 18h. Les gens veulent qu'on les appelle dans la semaine. « Est-ce que tu vas bien ?» Mais bien-aimé, quand il y a le réveil, tout le monde appelle tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va te rappeler l'heure de la réunion. Quand il y a réveil, tout le monde dit « Allons dans la montagne de notre Dieu, allons prier. » L'Esprit agit, il persévérait. Et il est écrit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Tout en commun. Il y avait un tel amour. Et dans Actes 4, ils disent qu'ils étaient une même âme. Tel amour. Et il est écrit, bien-aimés, qu'ils vendaient leurs propriétés. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Aujourd'hui, quand les gens sont ensemble régulièrement en train de prier, on dit que c'est de l'extrémisme, c'est une secte... Ils empêchent les gens de vivre avec leur famille, c'est faux. La puissance que tu dégages, que tu vas recevoir des réunions, va sauver ta famille, qui va te rejoindre dans ces mêmes réunions-là. Et bien aimé, tant que Dieu nous laisse libres, hein, c'est à nous de faire ce qu'on veut. Le réveil, c'est ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire « viens ». Non, c'est l'Esprit qui t'attire, c'est l'Esprit qui t'amène. Use de ta liberté pour ne pas venir, mais il ne faut pas accuser ceux qui viennent, ceux qui se réunissent, d'être une secte alors que c'est libre. C'est la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Aujourd'hui, on supplie les gens de donner de l'argent dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas normal. Là, on ne leur a pas demandé, c'est eux-mêmes qui vendaient leur propriété, qui mettaient pour l'œuvre, que l'œuvre de Dieu avance. Ils ne se disaient pas, mais comment ils vont gérer ça? Comment ils vont faire? Est-ce qu'il ne va pas s'enrichir? Non, ce n'est pas ton problème. Son problème à lui, c'est d'honorer Dieu. De dire, Dieu, voilà ce que je te donne. Bien-aimés, nous devons revenir à ça. Demander l'argent aux gens, ce n'est pas normal. Et quand en plus ça devient systématique, ce n'est pas normal. C'est arrivé une fois Paul de le faire, mais c'était pour aider des gens. L'Esprit de Dieu, quand il y a le réveil, il convainc les gens. On enseigne toujours, mais l'Esprit enseigne plus que nous. Et c'est écrit dans Jean 14, il vous enseignera. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, quand il viendra. Aujourd'hui, c'est nous qui parlons plus que l'Esprit Saint. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Nous devons dire comme on a chanté, Seigneur, nous avons soif que tout ça change. Nous voulons le règne de l'Esprit à nouveau. Nous capitulons devant toi. Voilà, bien-aimé, toutes les conséquences du réveil. Il faut aller relire Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous allez voir toutes les conséquences d'un réveil. C'est là. Après, il y a eu des réveils ailleurs, à gauche, à droite, mais le réveil d'acte 2, c'est ça notre base. Vous allez voir toutes les conséquences. Les gens eux-mêmes qui disent, je viens me repentir. J'ai fait trop de mal. Sans que quelqu'un lui ait prêché. Ou même là, on prêche la résurrection de Jésus, quelqu'un dit, mais je dois faire quoi? Aujourd'hui, nous, on veut imposer aux gens ce qu'ils doivent faire. Non, il faut que nous, on parle du Seigneur et que l'Esprit Saint pousse la personne à chercher maintenant sa voix. Mais je fais quoi maintenant? J'ai entendu une parole de lumière. une parole qui change. C'est ça le réveil, bien-aimé. Et nous avions dit le premier dimanche, donc le dimanche passé, que le premier problème que nous devons régler, c'est la prise de conscience par rapport au péché. Le péché, aujourd'hui, est négligé. Dans les milieux chrétiens, comme dans le monde, nous vivons ce qui est écrit dans Ésaïe 5, 20. Ils appellent le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, le seul péché encore qui a de l'importance dans le milieu chrétien, c'est l'adultère et la fornication, qui a plus ou moins de l'importance. Parce que parfois, c'est même négligé aussi, mais qui a plus ou moins de l'importance, c'est ça. À part ça, l'égoïsme, la colère, la jalousie, l'orgueil, l'insoumission vis-à-vis de son mari, le manque d'amour vis-à-vis de sa femme, tout ça, ce n'est même pas, on s'en préoccupe pas. Les gens vivent dans tout ça sans problème. Sans problème. Pour autant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie l'activisme, l'activité. Si je suis actif, si je travaille, si je prêche, si je chante pour Dieu, c'est bon. Mais que je ne sois pas dans la volonté de Dieu, qui s'en soucie? Je dis, Seigneur, je veux être dans ta volonté. Non, non. C'est ce dont on a parlé dimanche passé. De revenir sur la prise de conscience du péché. Le péché, c'est ça qui nous a éloignés de Dieu. C'est ça qui nous a privés du paradis. C'est ça le problème de l'humanité. Et donc, l'Église doit comprendre que le péché est grave. Vous voyez, quand on a demandé à Pierre, on fait quoi? Il a dit, repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. C'est le péché qui est le grand problème. Et quand nous prêchons aux gens, nous devons leur dire, repentez-vous de vos péchés. Le péché est un problème. Même si quelqu'un est riche, on lui dit, ta richesse n'enlève pas le péché. Tu dois te repentir devant Dieu pour aller au ciel. Dieu n'est pas d'accord avec le péché. Et aujourd'hui, nous allons parler de la légèreté. Et nous lisons Jérémie 15, 19. Après avoir parlé du péché, comme c'est écrit dans Ésaïe 59, 1, Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui me cachent de vous. Parce que je ne suis pas d'accord avec le péché. Mais je peux agir. Mais puisque l'Église ne réalise plus ce qu'est le péché, eh bien, Dieu nous regarde. On ne peut le voir à cause de ça. Mais il n'y a pas que le péché. Il y a la légèreté. Lisons Jérémie 15, 19.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner avec eux.
Amen. Jérémie est comme nous, en train de se plaindre. Il dit à Dieu, au verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ?» Jérémie dit à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse, Seigneur? Pourquoi tes promesses ne s'accomplissent pas? Nous, c'est ce que nous disons aussi à Dieu, Seigneur. Pourquoi nous prêchons et les gens ne changent pas? Pourquoi nous prêchons et les gens ne se convertissent pas? Pourquoi nos quartiers sont si secs? Pourquoi tout ça? On se plaint. Dieu dit à Jérémie, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Donc Dieu demande beaucoup plus de sérieux dans la relation avec lui. Si tu te rattaches à moi. Bien-aimé, on croit toujours plus qu'on est chrétien, qu'on est sérieux. On n'est pas sérieux, toujours. Dieu dit, il faut plus de sérieux. Rattache-toi à moi. je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Se tenir devant Dieu, c'est une position de gloire. Être devant Dieu, c'est une position de gloire. Si tu sépares, voilà le verset qui nous intéresse le plus, la partie qui nous intéresse le plus, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Le péché, c'est ce qui est mauvais, ce qui est interdit. Maintenant, nous allons dans une dimension plus grande. Ce qui est vil, c'est pas forcément interdit. Mais c'est inutile. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut faire ce qui est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est vil, c'est ça. Ce n'est pas... C'est permis. Tu peux faire. Tu n'es pas forcément dans le péché. Mais à quoi ça sert? C'est inutile. Alors, Dieu veut nous faire monter de stade. Apprendre ce qui est utile et ce qui est précieux. Apprendre à choisir ce qui est précieux. Parce que beaucoup de gens vont vous dire, mais moi je ne suis pas dans le péché. Ouais, vous voyez, dans certaines églises, les gens vivent correctement. Mais il n'y a pas encore la différence entre ce qui est utile, ce qui est précieux. Son argent, il va préférer l'investir pour lui-même et sa famille plutôt que pour Dieu. Donc cette personne-là ne sait pas encore ce qui est vil, de ce qui est précieux. À partir de cela, Dieu ne peut pas être plein dans sa vie, tel que nous lisons dans les Actes des Apôtres. Bien-aimé, il faut relire les Actes des Apôtres. Il faut relire le chapitre 2. Vous allez voir l'état qui est dans ce réveil-là. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. C'est pas que forcément qu'on y entre tout de suite, mais qu'on le comprenne. Pour que quand la puissance du Saint-Esprit nous y fait entrer, qu'on se laisse faire. Parce que si la puissance du Saint-Esprit vient et nous fait entrer dans cette perfection-là, et que nous on résiste, ça sera un gros problème pour nous. Beaucoup finiront mal en enfer. Attention, bien-aimé, à ce qu'on demande. On demande la grande puissance du Saint-Esprit. Mais il faut que tu sois prêt à te laisser conduire par ça. Si maintenant on te donne cette puissance et que tu fais autre chose, beaucoup vont finir comme Saül. Jusqu'au suicide. Parce qu'ils ont méprisé la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu traîne. Pourquoi? Il traîne à donner ça. Parce qu'il a peur que ça finisse mal pour ceux qui vont la recevoir. Cette puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous enseignons ce que nous enseignons. Savoir séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Comprendre ces choses-là. Dieu te toint pour guérir les malades. Maintenant, quelqu'un t'appelle pendant que toi tu regardes ton journal télévisé. Tu dis, mais je vais rappeler plus tard, je finis mon journal télévisé. Voilà. Ce qui est vil de ce qui est précieux. Le journal télévisé, est-ce que c'est interdit? Non. Mais là, celui qui t'appelle, lui, il a besoin de toi d'une manière vitale. Toi tu dis, mais non, je finis d'abord mon journal. Je vais rappeler. Non, Dieu t'a donné la puissance pour ces gens-là. Apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Pour aller prêcher l'évangile, tu veux un costume 3 pièces. Non. Apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Il faut que tu t'habilles comme quelqu'un qui va dans une fête de mariage pour aller prêcher l'évangile. Non, bien-aimé. S'il y en a, d'accord. Et si c'est prêt, d'accord. Mais je ne veux pas perdre mon temps, le temps précieux. Vous voyez ce qui est dit, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Le temps précieux que je peux mettre pour sauver quelqu'un, pour parler à quelqu'un, je veux prendre tout ce temps-là pour me préparer en habillement. Non, bien-aimé. Si ça a déjà été fait, d'accord. Donc je dois savoir peser devant deux choses. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est vil? À chaque fois, je dois faire le choix de ce qui est précieux. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Quand Jésus félicite la veuve qui a donné deux pièces, il la félicite parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc, elle a fait le choix de ce qui était précieux, ce qui était vil. Qu'elle mange, ce n'était pas mauvais. Qu'elle utilise les deux pièces pour elle-même, ce n'était pas mauvais. Mais elle a pesé entre utiliser ça pour Dieu et pour elle. Elle a compris que ce qui était précieux, c'était d'utiliser pour Dieu. C'est cette différence qui manque. Dieu dit à Jérémie, puisque Jérémie se plaint comme un homme correct, il dit, mais moi je fais tout bien, mais c'est toi Dieu qui ne fais pas ta part. Pourquoi tu me déçois comme ça? Dieu lui dit, Jérémie, passe à une autre étape. D'accord, tu as compris l'étape du péché, ce qui est mauvais et interdit, mais tu dois comprendre que moi Dieu, je veux du 100%. Je veux que quand un serviteur est dans ma main, ça soit à 100%. C'est ça qui explique, bien-aimé, que certaines personnes sont parties en mission chez les cannibales. Tu vas pour prêcher l'évangile aux cannibales, c'est-à-dire des gens qui mangent les humains, en sachant qu'ils sont mieux armés que toi. Et toi, tu l'as, en principe, quand tu vas prêcher l'évangile, tu ne vas pas avec les armes. Tu vas avec la Bible. Mais les gens qui vont t'accueillir, eux, ils sont armés et prêts à te manger. Mais il y en a qui sont partis. Il y a John Williams qui est mort de cela, dans l'île de Romango. À peine débarqué dans l'île, les guerriers sont venus, ils l'ont tué. Il n'a même pas eu le temps de prêcher l'évangile. Dans une autre tribu d'Indiens, il y a des gens aussi qui sont partis, on les a tués, on les a mangés. Et deux mois plus tard, d'autres sont partis encore dans la même tribu. Et il y avait parmi ceux qui sont partis la deuxième fois, le frère de quelqu'un qui était parti la première fois. On a mangé son frère, mais lui, il est parti encore prêcher à ces gens-là. Bien-aimé, sans la puissance du Saint-Esprit, est-ce que de telles choses peuvent se faire? Ben non. C'est pourquoi nous avons besoin du réveil. Le réveil nous donne une puissance qui fait que le raisonnement humain est vaincu par la puissance du Saint-Esprit, par la gloire de Dieu. On y va à la guerre. Séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Aujourd'hui, à cause de l'évangile de prospérité, tout ce qui est charnel, maison, voiture, c'est redevenu précieux pour le chrétien. Or, Jésus nous avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, que ce soit le royaume des cieux qui soit précieux pour vous. Tout ce qui est couple, mariage, tout, c'est ça qui est devenu précieux aujourd'hui. Or, au début, c'était Jésus qui était précieux. Au début, c'était servir Dieu. Comme on a lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est ça qui était précieux. Bien-aimés, vous, qu'est-ce qu'on pense de Pierre? Pierre n'était pas parfait. Mais lisons Luc 5, 1 à 12. Il n'était pas parfait, Pierre. Mais il a fait le choix entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Et au moment où Pierre fait ce choix, il n'y a pas encore le réveil extraordinaire. Mais il se prépare à cela. Luc 5, 1 à 12. Si nous voulons le réveil, bien-aimés, suivons le même chemin que ceux qui ont vécu le réveil, comme les pierres. Quel a été le cheminement de Pierre? Lisons Luc 5.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Amen. Voilà, bien aimé, le parcours de Simon. Il rencontre Jésus, il voit le miracle. Il comprend qu'il est en face de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se repent de ses péchés. La prise de conscience du péché, première chose, il a pris conscience du péché. Deuxième chose, il a su se séparer de ce qui est vil et s'attacher à ce qui était précieux. Il est écrit quoi au verset 11? Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout. Ils ont laissé tout. Ils ont laissé leur barque. Ils ont laissé leur poisson qui venait de pêcher miraculeusement en grande, grande quantité, bien aimé. Une telle pêche, ça te rend riche pour 2 mois. Ils ont laissé tout ça pour suivre Jésus. Il a su, Pierre, faire la différence entre ce qui est vil, c'est-à-dire ses barques, son métier de pêcheur, pourtant qu'il nourrissait sa famille. Mais quand tu compares ça à la toute-puissance du Dieu du ciel qui t'a multiplié les poissons, qui, même pas multiplié, qui les a créés dans ton filet, parce que dans cet endroit-là, il n'y avait pas de poissons, parce qu'ils avaient pêché toute la nuit. Donc Dieu te crée des poissons sur le champ. Quand tu compares ça et ton métier de pêcheur, et le miracle, les poissons en grande quantité que tu viens de pêcher, quand tu compares à la puissance qui peut créer des poissons, ton choix est clair. Tu sais ce qui est précieux, tu sais ce qui est vil. Et Pierre a laissé tout ce qui était vil, son métier, ses barques, ses amis, ses les gens de la même profession, il les a laissés. Son milieu, c'est tout ce qui, ça qui était vil pour suivre Jésus. Pour suivre qui? Jésus. Je n'ai pas dit pour suivre une église, mais pour suivre qui? Jésus. Quand, bien aimé, on comprend ces choses-là, que même ce qui paraît logique pour nous, les études, notre profession, peut être un obstacle pour ce qui est précieux, c'est-à-dire l'appel de Jésus. Suivre Jésus. Si on ne comprend pas ça, le réveil ne peut pas venir. Et même s'il venait, puisque ça ne m'appartient pas de décider, même si Dieu envoyait ça, tu finiras mal. Tu n'as pas appris à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Dieu dit à Jérémie, tu seras ma bouche. C'est-à-dire, tu verras ma puissance dans ta parole quand tu vas apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Nous voulons la puissance. Apprenons à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Le succès sur la terre, c'est vil. Que les gens reconnaissent qu'on est un bon prédicateur, un bon pasteur, c'est vil. L'argent, c'est vil. Les choses de la terre se vilent. Ça n'a pas de consistance éternelle. Et je dis bien aimé, tout ça c'est vil en comparaison avec ce qui est précieux. L'appel de Dieu, Jésus, la vérité, la parole, Dieu lui-même. Les poissons, c'est Dieu lui-même qui les a suscités. Mais c'est vil quand on les compare à Dieu qui peut les produire. Tu suis Dieu, Dieu va s'occuper de tout. Il est tout puissant. Saisissons ce qui est précieux. Ne nous laissons pas voir par ce qui est vil. Les vêtements, c'est vil. Et Jésus me dit même que du temps, Salomon était vêtu d'une manière, du temps de Salomon, mais ses vêtements étaient extraordinaires. Il me dit, mais comparez les vêtements de Salomon avec les fleurs sont supérieures, de loin. Pour mieux comprendre ça, il faut regarder une feuille avec un microscope, voir comment c'est composé. C'est là que tu vas comprendre que c'est supérieur de loin que les vêtements de Salomon. Jésus dit, mais c'est supérieur. Donc moi, je suis Dieu, je peux vous donner des choses supérieures. Pourquoi balancer entre moi et autre chose? Il faut rapidement me choisir moi. Ce qui est vil de ce qui est précieux. Choisissons bien aimé. On cherche les applaudissements, on cherche les maisons, ou bien on cherche Dieu. Cherchons Dieu, bien-aimés. Faisons la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Un jour, une sœur à Madagascar était devant le choix, soit de faire ses études, de faire son examen de fin d'année, soit d'aller en mission dans un autre pays. Il y a eu une coïncidence, les dates étaient les mêmes, sans qu'elle elle ait voulu. Bien-aimé, je pense que pour le chrétien d'aujourd'hui, le choix est clair. Il va faire un coup de fil pour appeler son responsable. Responsable, je ne pourrai pas parce que j'ai mes examens. Bien-aimé, là même, si vous discutez de ça, vous êtes accusé de secte directement. Si vous discutez de ça, vous êtes accusé de méchant directement. Dans le christianisme d'aujourd'hui, il n'y a pas d'hésitation. Pasteur, je ne peux pas, j'ai les examens. Mais dans le christianisme du réveil, on a appris ce qui est vil et ce qui est précieux. C'est pourquoi, qu'a fait notre sœur? Elle a d'abord demander au roi des rois, au Dieu vivant, lui qui donne à chaque humain de respirer. Et c'est cette respiration qui permet que tu étudies, que tu aies tes diplômes. Mais c'est lui qui est précieux. Ce n'est pas ton diplôme. Sans la respiration, tu n'as pas de diplôme. Elle a demandé à celui-là, qui est précieux, qui donne la respiration, qui donne l'intelligence au cerveau. Et elle a ressenti dans son cœur qu'elle devait plutôt aller en mission. Voilà. Bien-aimé, aujourd'hui, quand vous discutez, demandez aux parents qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de votre enfant. Moi, je trouve que je préfère qu'il soit avocat. L'autre dira, je préfère qu'il soit basketteur. L'autre dira, bien-aimé, nous avons un parcours terrestre. Pas de problème. Je ne suis pas contre ça. Mais je dis tout simplement, le souhait du fond du cœur d'un chrétien qui est dans le réveil, ça doit être quoi? Que son enfant serve l'Éternel. Là où Dieu l'amènera. Maintenant, le reste, Dieu nous donne selon sa volonté. Mais le souhait doit être qu'il serve l'Éternel. C'est ça, bien-aimé. Réveillons-nous. Choisissons ce qui est précieux. C'est très important. David, avant de mourir, il dit à Salomon, choisis Dieu, sers Dieu de tout ton cœur à 100%, il te donnera la sagesse pour le reste. Et Salomon a appliqué ça. Bien-aimé, on n'est pas en train de dire, puisque cette sœur-là dont je vous parle, Elle a raté son examen à cause de ça, effectivement. Mais son directeur est venu la voir après la mission d'évangélisation pour lui dire, mais pourquoi tu as raté? C'était tes examens de fin d'année. Elle a expliqué à ce directeur, qui n'était pas forcément chrétien, que j'avais des âmes à sauver. Les âmes que je vais sauver, elles seront, elles deviendront. Je vais les voir au paradis éternellement. C'est ma gloire éternelle. C'est précieux. Ces gens-là, s'ils ne sont pas sauvés, ils vont en enfer. Le directeur a dit, exceptionnellement pour toi, on va te refaire l'examen. Et elle a eu la meilleure note. Elle a eu et le diplôme et les âmes. Nous ne sommes pas contre tout ça. Nous disons ce qui est écrit. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est tout. Si tu veux vraiment du royaume des cieux, tu sais alors ce qui est précieux et tu connais ce qui est vil. Nous devons pratiquer ça dans tout. Quelqu'un t'a pris, t'a emprunté de l'argent, il ne rend pas. On doit se poser la question, qu'est-ce qui est vil, qu'est-ce qui est précieux? Que je récupère cet argent? On doit poser la question à Dieu. Dieu te montrera, non, pour ce cas-ci, ce qui est précieux, c'est que tu laisses. Pour ce cas-là, ce qui est précieux, c'est que vous parliez. Le Seigneur, d'abord, il dit à Jérémie, apprends à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est important, bien-aimé. Sinon, on va utiliser la gloire de Dieu pour autre chose. C'est pourquoi le réveil ne vient pas. Parce que vite fait, on va utiliser ça pour donner le nom à son ministère. Jean-Jacques Ministries. Parce que Dieu t'a déversé une puissance, ça devient Jérôme Ministère, Ministère Jérôme. Non, bien-aimé. La gloire doit revenir qu'à Jésus seul. Il veut qu'on comprenne ça. La gloire, ce n'est pas quand moi je chante. La gloire, c'est le fait que je m'humilie devant Dieu. C'est ça la gloire. Que mon cœur est pour lui. C'est ça. Maintenant qu'il utilise ma voix, que sa gloire, à Dieu seul la gloire. Mais ce ne doit pas être moi mon objectif que je sois connu. Mon objectif, c'est que mon cœur adore le Seigneur. Et que cela produise d'autres adorateurs, des gens qui vont se convertir, qui vont l'adorer. C'est cet état d'esprit-là de séparer ce qui est vide de ce qui est précieux qui manque. Dieu ne peut pas envoyer le réveil dans ces conditions-là. On doit retourner à ça. Lisons Luc 12, 13 à 21.
Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Voilà, bien-aimé. Dieu nous dit, soyez intelligents, sachez choisir qu'est-ce qui est précieux. Toutes les richesses de la terre, ce n'est pas précieux, ça passe très, très vite. Très, très vite. Dernièrement, je regardais un documentaire sur le joueur portugais Ronaldo. Mais on montrait, quand vous regardez le documentaire, Il ne manque qu'un seul mot à lui donner, il est Dieu. Voilà. Il ne manque que ça. Il était mannequin, le meilleur footballeur, milliardaire. Quand on voit là où il passe ses vacances, quand vous voyez tout ça, vous dites, il ne manque qu'une seule chose qu'on appelle Dieu. Mais bien aimé, nous on a de l'âge. On a connu plus fort que lui. On a connu Michael Jackson. Beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas. Mais Michael Jackson, c'est mille fois plus célèbre, plus puissant que cet homme-là. Mais comment il a fini? Incapable même de se mettre debout. Incapable de parler. Travaillé, détruit par les démons. Quand on voit de tout ça, le succès des gens, mais il faut avoir du recul, comprendre qu'il y a eu de plus grands avant. Il y a eu Hitler. Quand il levait la main, tout le monde levait la main. Toute une nation qui a suivi Hitler comme des moutons. C'est des Allemands. Tous, ils ont suivi comme des moutons. Il y a déjà eu tout ça, mais ça passe. Tout ce pourquoi tu te bats, c'est vil quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu d'abord. Tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Même le ministère. Tout pour la gloire de Dieu. Lorsque tu te bats pour que ton ministère soit connu, c'est vil. Toi, tu dois faire ton travail. Si Dieu veut le faire connaître, c'est à lui de le faire connaître. Il ne t'a pas demandé de lutter pour que ça soit connu. Il t'a demandé, toi, de faire un travail. Prêche! Quand Pierre prêchait, c'est Dieu qui ramenait les gens. Quand Pharrell a prêché à Genève, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de haut-parleur. Mais les gens sont venus, ils étaient environ 1000. 1000 sans micro. Sachons séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Nous clôturons par comment on reconnaît le sérieux. C'est l'attachement à la Bible. Nous clôturons avec ça. Mais bien aimé, comme nous sommes pris par le temps, je nous demande de lire 2 Rois 22 chez nous à la maison. Dans 2 Rois 22, on nous montre la préparation d'un grand réveil que Dieu veut faire du temps de Josias. Mais ce réveil est précédé par quoi ? Par la découverte de la Bible. De la loi de Dieu, des Écritures. Et quand ils découvrent les Écritures, ils comprennent qu'ils étaient en dehors. Et quand ils découvrent les Écritures, ils bâtissent maintenant le réveil avec les Écritures. Ça doit aller ensemble. C'est pourquoi Dieu a du mal à déverser le réveil parce qu'il sait qu'on va utiliser d'autres doctrines sur son réveil à lui. Il ne veut pas. Il veut qu'on revienne aux Écritures. Que la Bible soit au centre. Que notre fonctionnement soit biblique. Qu'on utilise la Bible pour prendre nos décisions, pour construire nos vies, pour construire l'église du Seigneur, pour construire l'œuvre de Dieu. C'est la Bible. Et il faut qu'on revienne à ça. Qu'on utilise la parole. Beaucoup de réveils se sont éteints quand les gens ont négligé la Bible. Ça s'est éteint, carrément. Mais quelque chose a continué, mais ce n'est plus le réveil de Dieu. C'est l'action des humains. Dieu veut qu'on prenne au sérieux la parole. C'est ça aussi, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Construire en fonction de la parole. Dans Matthieu 7, 24, on nous en parle de deux personnes qui construisent. Il y a une qui construit sur le sable, l'autre sur le roc. Mais celui qui construit sur le sable a vu sa maison finir vite, mais c'est tombé quand il y a eu les intempéries. Mais celui qui a construit sur le roc, sa maison a tenu. Le roc de la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui a construit sur le roc, il est semblable à quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Construisons tout en fonction de la parole. Que personne ne nous écarte de cela. La Bible est toujours la Bible. Revenons sur ça. Les décisions que tu prends, le chemin que tu prends, toi, tout doit se concentrer sur la parole. Nos relations dans l'église, c'est sur la parole de Dieu. L'évangélisation, c'est selon la parole. Aujourd'hui, on évangélise les gens, on leur dit, venez, Jésus va vous donner le feu, la vie, la gloire, la paix dans vos cœurs. Non, on doit dire aux gens tels qu'on voit dans la parole, repentez-vous de vos péchés parce que ça vous amène à la mort éternelle. Repentez-vous de vos péchés parce que Dieu n'est pas d'accord. On ne dit plus ça. Maintenant, si tu veux que Jésus règle tes problèmes, convertis-toi. Mais convertir, c'est quoi? Il faut se repentir de ses péchés pour entrer dans la vraie conversion. C'est le péché le problème. Nous devons revenir aux prédications de la Bible, comment c'était prêché dans la Bible. C'est comme ça que nous devons prêcher aussi. Sans que quelqu'un soit conscient de son péché, il n'aura pas non plus une grande soif de Dieu. Mais si toi, tu lui as prêché la paix, mais oui, effectivement, dès qu'il a maintenant la paix dans son couple, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Dieu. Mais si tu lui as prêché le problème du péché et de la vie éternelle, il n'oubliera jamais. Parce que le péché le guette chaque jour. Revenons aux Écritures. Vous allez voir ça dans 2 Rois 22. Il y avait des sacrificateurs, il y avait un roi, il y avait des prophètes, mais il n'y avait pas la Bible et ils étaient dans l'erreur totale. Totale. On peut avoir des pasteurs, on peut avoir des prédicateurs, des évangélistes, mais lorsqu'on néglige la Bible, on peut faire beaucoup, beaucoup d'activités lorsqu'on néglige la Bible, on est à côté. C'est ce que vous allez voir dans 2 Rois 22. Revenons aux Écritures. Ce n'est pas les activités qui sauvent. C'est les Écritures. Toujours les Écritures. Séparons ce qui est vil de ce qui est précieux. Au nom de Jésus, choisissons. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à refonder nos priorités, Seigneur, sur toi, à remettre nos priorités sur toi, Seigneur, à séparer ce qui est vil, ce qui n'est pas utile de ce qui est précieux. Et ce qui est précieux, c'est ton plan pour nous, Seigneur. Ce qui est précieux, c'est toi-même, Père éternel. Ce qui est précieux, c'est ta parole. Ce qui est précieux, c'est la vie éternelle. C'est la sainteté, Seigneur. C'est ton plan, c'est ta volonté pour nous, Seigneur, que nous apprenions à faire la différence et à choisir ce qui est précieux, afin que lorsque ta gloire descendra, nous en usions pour ce qui est précieux et non pour ce qui est vil. Que nous fassions notre choix. Nous t'en prions, Papa, aide-nous dans tout cela, à savoir où nous devons semer, à savoir te demander la permission pour les choses, à savoir, Seigneur, mettre la Bible avant toute chose. Nous t'en prions, Père éternel. Nous te demandons pardon d'avoir négligé la Bible. Nous te demandons pardon d'avoir mis les choses de la terre avant ton plan pour nous, Seigneur. D'avoir mis nos familles avant toi, Seigneur. D'avoir mis nos études avant toi. Seigneur, même quand nous recherchons le travail, que nous te mettons avant, que nous te disions, Seigneur, je veux un travail qui m'aidera à te glorifier et non qui va me ramener en arrière. Que nous sachions, Seigneur, te choisir avant toute chose. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.